chaos nous fait peur, nous effraie. Catastrophe naturelle, guerre nucléaire ou bactériologique, crash boursier, urgence humanitaire. Le chaos nous fascine aussi. Les prophéties de fin du monde foisonnent sur Internet, de Nostradamus au grand tournant annoncé par certains en 2012. Choisissez la fin du monde qui vous sied le mieux. Confusion initiale, indifférenciée, le chaos occupe une place de choix dans nos imaginaires. Dans la mythologie grecque, Chaos, c'est une entité primordiale d'où naît l'univers. D'après Hésiode, Chaos précède non seulement l'origine du monde, mais également celle des dieux. Raphaël Yogier, sociologue et directeur de l'Observatoire du religieux à Aix-en-Provence, revient sur ce chaos et la place qu'il occupe dans notre monde contemporain.
La place du chaos dans la mythologie gréco-romaine a souvent été extrapolée et augmentée de nos jours parce que le chaos joue un rôle important de nos jours. En réalité, c'est vrai qu'il y a une place du chaos dans l'Antiquité grecque, c'est vrai qu'il y a une place du chaos aussi dans l'Antiquité romaine, mais c'est un chaos transitoire, c'est l'espace de transition, l'espace de la fête, c'est ça le chaos dans la mythologie grecque. Alors c'est vrai qu'il y a l'image de Dionysos, c'est vrai qu'il y a l'image de Dionysos, l'image de l'ébriété, hein, c'est pour ça que Dionysos effectivement est le dieu du vin. Le chaos est perçu comme un moment et comme un espace, comme je le disais, de transition, de régénération, qui est fondamental, mais en revanche qui n'est pas au fondement de la société. Parce que l'objectif de la société, c'est d'instituer l'ordre apollinien. D'ailleurs, la ville grecque est la ville qui est tracée. C'est-à-dire qu'on trace les différentes parties, les différents quartiers sont séparés les uns des autres, comme dans la ville romaine d'ailleurs. L'urbs romaine, la cité romaine, c'est une cité qui est tracée, qui est orientée avec un décumanus et un cardo. D'ailleurs, au fondement de Rome, la légende dit que ça commence par un tracé, une séparation, donc un ordre. Donc on est aussi bien dans l'Antiquité grecque que romaine, dans l'idéal de la civilité, de la citoyenneté, hein, de la cité romaine, de l'urbs, de la ville. Et la ville, par excellence, c'est l'ordre, c'est le fait d'ordonner la nature. Et le chaos joue un rôle, en quelque sorte mystique, comme je le disais, de transition, de régénération, qui est fondamental, mais qui n'est pas au fondement de cette urbs, de cette civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire le désordre ? Il y a un mot grec qui est le mot apeiron, qui signifie infini et qui en même temps peut signifier chaos, désordre, apeiron. Mais aujourd'hui, vous remarquez que quand on dit le mot infini, ça devient positif. Mais en réalité, dans l'Antiquité grecque, c'était synonyme. Infini, désordre, manque d'ordre. C'est l'infini est un manque, donc c'est un manque et c'est ce qui caractérise le désordre, c'est le manque d'ordre, le fait que les choses ne sont pas finies, c'est ça l'infini. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que l'infini, le non-fini, a pris une valeur positive. Le non-fini est ce qui est positif, pas ce qui est négatif, c'est pas le négatif du fini, l'infini aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'infini, on voit bien qu'on parle d'une valeur positive en elle-même. Moi, c'est ce que j'appelle le passage du sentiment cosmique, cosmos voulant dire l'ordre, ce qu'a fait le mot cosmétique, cette espèce d'esthétique parfaitement rangée où tout est à sa place, ce qu'a fait aussi le mot mundus qui veut dire monde, qui est relatif aussi à la cité, à l'organisation parfaite. Bon. Donc le passage du sentiment cosmique au sentiment océanique. Et le sentiment, j'appelle ça sentiment océanique parce que les hippies des années 70 l'employaient, c'est l'idée de sentiment océanique, c'est une sorte d'éprouver le sens de l'univers. Bon. Et je l'emploie aussi parce que, par opposition au sens de la limite, limes, quand on, dans le tracé des villes, au sens de l'organisation,
it's on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows. The government is corrupt, and we're on so many drugs with the radio on and the curtains drawn. We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death. The sun has fallen down. And the billboards are all leering. And the flags are all dead at the top of their poles.
Donc le sentiment océanique, c'est contrairement au sentiment de la limite, de cette espèce de précision, d'organisation qui est le sentiment cosmique, c'est le sentiment de l'illimité, de la non-limite, d'un horizon qui se dérobe sans cesse, c'est-à-dire le sentiment du vague, du flou, le flou qui devient positif. Ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas seulement un sentiment, ou du moins c'est un sentiment qui se diffuse dans l'ensemble de la société, dans l'ensemble de la culture, non seulement dans les couches populaire, c'est-à-dire non seulement chez le commun des mortels, mais aussi dans les sciences, par exemple. Dans les sciences, même en logique, en mathématiques. À mon avis, c'est ce qui explique aussi le fait que le chaos en sciences, en mathématiques, va être de plus en plus considéré, voire sacré, voire devenir lui-même une valeur positive. Les théories du chaos qu'on observe aujourd'hui, mais aussi qui commençaient par être les théories des probabilités, la probabilité qui deviennent positives. En physique, on l'a avec l'idée d'incertitude, qui devient une incertitude positive. Ce n'est pas une incertitude comme manque, mais c'est une incertitude qui est donnée, qui est positive, qui est pleine. Et tout cela dans l'ensemble de la société. Ce qui fait qu'on peut faire, je crois, on peut tracer une sorte de ligne d'évolution de notre culture vers du sentiment cosmique, vers le sentiment océanique, qui suppose la positivité du chaos. Le chaos a fait son entrée au cœur de la culture, non plus comme étant simplement fondamental, mais comme des étapes vers plus d'ordre, comme dans l'Antiquité grecque, mais au contraire comme étant le fondement même de la société. Et là où on le voit, c'est qu'une une ville même, qui est par excellence le symbole de l'organisation la plus rigoureuse, la plus stricte, l'idéal aujourd'hui de la cité a été remplacé par l'idéal de la nature, c'est-à-dire par l'idéal de la diversité, de ce qui n'est pas préalablement arrangé. Donc on introduit même du chaos dans la ville pour que la ville repose sur des bases saines. Et ce qu'on appelle être sain, aujourd'hui, saint au sens sanitaire, hein, au sens d'être bien, pas saint au sens de sainteté, mais on pourrait aussi dire que c'est saint au sens de sainteté, eh bien, c'est lorsqu'il y a de la nature, c'est-à-dire lorsqu'il y a du chaos, lorsqu'il y a du non contrôlé. Pour toute une série de raisons. Au 15e, au 14e siècle, et même chez les Grecs, on avait peur de l'infini, parce que si on avait peur de l'infinité de la nature, parce que la nature, c'est le danger, ce sont les virus, c'est la monstruosité, c'est l'événement qu'on ne peut pas contrôler, c'est ça. Or, avec le développement de la globalisation, c'est-à-dire le fait de considérer la Terre comme globe, comme dit toujours le philosophe Peter Sloterdijk, avec la considération de la Terre comme globe fini, et donc le fait de cartographier entièrement la Terre, on finit par avoir peur de la finitude de la Terre elle-même, et on finit par avoir peur qu'elle finisse cette Terre. C'est ça aussi, cette peur écologique que la Terre finisse, c'est lié à ce sentiment de finitude. La Terre est complètement finalisée, finie. Et donc on projette comme idéal le contraire, c'est-à-dire l'infinité, l'infinitude comme une valeur positive, le chaos comme une valeur positive. Parce qu'on a peur du contrôle, on a peur de notre propre rationalité. En sens inverse, dans l'Antiquité grecque, on avait peur de la nature et on opposait la rationalité à cette peur de la nature. La cité idéale, même la cité de Dieu, c'était une cité purement rationalisée. Le paradis antique, l'Olympe des Grecs, c'est un lieu où les choses sont mieux organisées, sont plus parfaites, etc. Le monde supralunaire d'Aristote, c'est un monde où tout est organisé, tout est parfait. Alors qu'aujourd'hui, le monde parfait, c'est la nature foisonnante, c'est la nature riche, c'est la nature indéterminée, incertaine.
Pourtant aujourd'hui, on a bien souvent l'impression qu'on est au bord du chaos à travers l'utilisation qui en est faite de ce terme-là dans les médias. Comment justement est instrumentalisée l'idée de chaos ? On parle de guerre, de crise politique, d'effondrement économique. Comment ce terme-là est réutilisé aujourd'hui ?
Alors, on disait que ça traversait tous les domaines de la culture, donc non seulement la science, mais évidemment l'art, le chaos, ce chaos positif, cette expression du chaos dans tous les domaines. Mais effectivement, puisque ça devient un mot important, un mot central, mais il peut être utilisé à différents niveaux, de toutes les manières. Il peut être utilisé à des fins de discours sur les fins dernières, ce qu'on appelle l'eschatologie, et c'est ce qu'on trouve dans les films eschatologiques, c'est ce qu'on trouve chez les journalistes. Mais en même temps, vous remarquerez que ce qui est considéré encore comme négatif dans le chaos, c'est le chaos que l'homme aurait provoqué par trop de rationalité. Par exemple, le chaos qui serait provoqué par le fait de provoquer des désordres écologiques, mais qui ne sont plus des désordres naturels, un désordre provoqué, un désordre dont l'homme est responsable par sa technologie, par sa science, par son trop de rationalité.